Bonjour à tous les auditeurs de Radio MDM. L'émission Leur histoire est aussi notre histoire aujourd'hui va s'intéresser à l'époque gallo-romaine dans la région du Marsan. Et nous sommes en compagnie de Didier Vigneault, archéologue, que nous avons déjà reçu lors des émissions précédentes. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Jeanne-Marie.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la période romaine. C'est une période qui est relativement longue.
La période romaine, c'est une période qui va commencer aux alentours de 52 avant Jésus-Christ, date de la conquête de la Gaule par César, et qui va se terminer aux alentours de 400. Il y a une période qui suit, qui s'appelle l'Antiquité tardive. Alors, c'est une période qui peut aller jusqu'aux alentours de 500 après Jésus-Christ. Et c'est une période un peu charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Aussi bien que ni les antiquisants ni les médiévistes ne savent réellement à qui appartient cette période d'une centaine d'années. Donc on peut dire que la période romaine va durer un maximum de 550 ans. Dans notre région d'étude, c'est-à-dire le bassin de la Midouze, cette période est assez bien représentée, puisque l'on recense 190 sites. Sur ces 190 sites, 166 ont été découverts au cours de ces 15 dernières années, notamment grâce aux travaux de l'archéologie préventive, et notamment grâce aux travaux du CRAL, du Centre de Recherche Archéologique sur les Landes, qui a pour tâche de suivre tous les labours forestiers qu'il y a dans notre région.
Alors Didier, les émissions précédentes portaient sur la préhistoire, sur l'âge du bronze et l'âge du fer en Marsan, c'est-à-dire des périodes pour lesquelles seule l'archéologie pouvait apporter quelques lumières sur la connaissance qu'on peut avoir de ces périodes lointaines. En ce qui concerne maintenant l'époque romaine, qui est quand même plus proche de nous, quelles sont les sources dont on dispose pour mieux la connaître, en tout cas dans la région, parce qu'on la connaît sur le plan général, disons, de la France, l'ancienne Gaule, mais par exemple pour le Marsan, nous n'avons pas davantage de textes en dehors de ce que nous dit César dans la guerre des Gaules.
La période romaine, on la connaît un petit peu grâce aux analyses palynologiques qui ont été réalisées dans des lagunes. Alors qu'est-ce que des analyses palynologiques? Je l'avais déjà expliqué pour la période ancienne, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Les analyses palynologiques se font grâce à des prélèvements de carottes. Donc ce sont des gros tubes de sédiments. Ces gros tubes de sédiments sont ensuite découpés, puis on va essayer de trouver des éléments datants à l'intérieur, notamment des éléments carbone qui peuvent être datés par C14. Et ces éléments carbone vont permettre de caler chronologiquement les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ces carottes. Entre deux éléments datés, on va compter le nombre de pollens qui ont été piégés à l'intérieur de ces carottes et on va pouvoir ainsi déterminer le paysage qui existait au cours d'une période bien précise. Donc ce système a très bien fonctionné, il fonctionne très bien, il a très bien fonctionné pour notre région d'étude, puisque 4 prélèvements avaient été réalisés, 2 au sud Gironde et 2 dans les Landes, un sur Caninx et l'autre sur la commune de Lavry. Donc tous ces prélèvements ont montré que le paysage que l'on avait des Landes est tout à fait différent à celui que nous avons aujourd'hui, et surtout tout à fait différent à celui que nous avions autrefois, c'est-à-dire la lande ou les landes telles que nous montrent les photos de Félix Arnaudin notamment. Et il y avait à la place une chenille mixte, une chenille mixte qui était de plus en plus ouverte à cause de l'intervention de l'homme. Elle était de plus en plus ouverte, on coupait de plus en plus cette forêt au bénéfice de l'augmentation des productions céréalières et au bénéfice aussi du pastoralisme. Donc il y avait bien à l'époque une exploitation de cette chaîne mixte. Alors l'essence principale était le chêne, mais il y avait aussi du bouleau, du noisetier, du pin et du hêtre. Donc toutes ces essences ont été petit à petit exploitées. Et aux alentours d'une période allant entre 600 après Jésus-Christ et à peu près 1100-1200 après Jésus-Christ, une période assez longue, mais on ne l'a pas sur tous les prélèvements que nous avons réalisés. Il y a des indices qui montrent qu'elle commence plus tôt, d'autres qu'elle commence plus tard. Mais en tout cas, entre 600 et 1100-1200 après Jésus-Christ, les Landes deviennent ce qu'a connu Félix Arnaudin, c'est-à-dire de la lande assez ouverte, plutôt ouverte sur le paysage.
Pour l'époque romaine encore, nous avons donc un paysage tout à fait différent de celui qu'on va connaître à partir du Moyen-Âge, qui est celui de la lande.
Voilà, donc, mais avant cela, avant la période romaine et pendant la période romaine, nous avons donc dans l'environnement une chênaie mixte. Voilà, cette forêt a été exploitée, nous y reviendrons tout à l'heure, hein. C'est vraiment très important de le noter. Donc, tous les sites que nous avons répertoriés dans notre zone d'étude sont calés dans la fourchette chronologique que je vous ai indiquée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire entre moins 50 et plus 400.
Les sites que vous avez découverts sont sans doute très différents de ceux dont vous avez parlé, par exemple pour l'âge du fer, qui sont visiblement des bâtiments qui sont plus fragiles, donc des bâtiments assez rudimentaires en fin de compte. Est-ce que c'est la même chose pour l'époque antique, ou bien est-ce qu'on trouve différents types de bâtiments ?
On compte parmi ces sites des villas romaines, des établissements cossus qui comportent de riches mobiliers à l'intérieur, notamment du marbre, des peintures murales, des mosaïques. Alors les auteurs antiques sont quand même beaucoup plus nuancés, c'est-à-dire que pour eux, ben, une villa n'a pas forcément un territoire, il peut y avoir plusieurs villas sur un même territoire, donc là n'a pas forcément de grosses possessions autour. Tous s'accordent à dire que les villas sont quand même des bâtiments appartenant à des gens plus ou moins riches, hein, mais les villas, de par leur architecture ou leur signe intérieur de richesse, sont tout à fait différentes. Il peut y avoir des villas très riches, très cossues, avec du marbre, des enduits peints, des mosaïques, et des villas un peu plus austères. On n'a pas de définition réelle d'une villa, hein. Dans la définition du mot donné par les auteurs antiques, la villa, c'est en gros un bâtiment qui appartient à une personne riche, un bâtiment de vie, hein, une maison qui appartient à quelqu'un de riche. Donc nous avons répertorié 7 villas sur l'ensemble du bassin de la Midouze. Ce bassin de la Midouze a une surface qui fait 2402 km², et 7 villas sur cette surface, c'est vraiment très très peu. En effet, lorsque l'on compare notre territoire avec le Gers, on découvre que dans le Gers, il y a autour de Montréal, du Gers, autour des Hauses, à peu près une densité de villas de une villa par km². En ce qui nous concerne, nous, dans les Landes, voilà, nous avons 7 villas qui ont été répertoriées sur 2402 km².
En effet, 7 villas, c'est vraiment un tout petit nombre. Est-ce que par hasard, il y en aurait d'autres que nous n'aurions pas encore découvertes ?
On peut penser qu'on en connaît la grande majorité, même s'il y a des indices qui montrent qu'il y a certainement au moins 2 autres villas dans d'autres secteurs, que je ne nommerai pas ici pour des raisons de protection de ces sites, mais il y a 2 villas qui visiblement n'ont pas encore été mises à jour et qui le seront certainement prochainement au cours de différents travaux. Donc tous ces bâtiments aristocratiques que l'on a, c'est un grand mot, donc c'est 7 bâtiments aristocratiques que l'on a, hein. Alors pourquoi aristocratiques? Parce qu'on pensait qu'ils étaient liés à une élite autrefois. Mais ces villas peuvent être aussi le signe de réussite de certains entrepreneurs ou artisans. Je pense notamment à la villa de Saint-Pierre-du-Mont qui est certainement liée à un artisanat sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc on a quand même des bâtiments assez cossus dans notre région. On en a très peu. Ce que l'on pense, nous, c'est qu'il y avait d'autres types de bâtiments, hein, qui ne sont pas encore tout à fait bien étudiés, que l'on ne connaît pas tout à fait très très bien par l'archéologie. Ce sont des bâtiments de niveau intermédiaire, ce qu'on appellerait des bâtiments de niveau intermédiaire. C'est-à-dire quelque chose entre la villa et la ferme, donc des bâtiments cossus qui n'ont pas le même signe de richesse que les villas, mais qui peuvent appartenir à des personnes importantes, hein. Et ça, on en pense qu'il en existe, hein. J'ai en effet fouillé un habitat en 2013 sur la commune de Houssuzan, et cet habitat avait montré qu'il y avait déjà des thermes, et qu'il y avait une emprise au sol qui était quand même assez importante, et une pérennité de l'occupation, c'est-à-dire une durée de l'occupation, qui s'est allée du 1er jusqu'au 4e siècle, voire plus loin, peut-être le 5e ou le 6e siècle. Donc il y a une possibilité d'avoir des bâtiments qu'on ne connaît pas.
Alors les grandes villas dont vous parliez tout à l'heure, les 7 villas du Marsan qui sont connues, on les connaît même depuis fort longtemps, en tout cas dans la littérature régionale. En revanche, ces bâtiments dont vous parlez sont totalement inconnus. Comment se fait-il que jusqu'à présent, il n'ait jamais été signalé?
Alors pourquoi on ne connaît pas ce type de bâtiment? Parce que ces types de bâtiments, il faut savoir qu'en général, dans les Landes, il est très difficile d'avoir un accès aux matériaux de construction durs comme la pierre. Il y a très peu de pierres sur nos terrains sablonneux. Et donc ces bâtiments étaient construits en bois et torchis, qui étaient les matériaux les plus courants et les plus abordables dans notre secteur d'études. Donc ces bâtiments qui étaient construits en bois et torchis pouvaient être luxueux, pouvaient être importants. On a en effet découvert dans le nord-est de la France des bâtiments en bois et torchis qui possédait à l'intérieur des peintures murales. Donc ce n'est pas parce qu'un bâtiment est en bois et torchis qu'il faut considérer que ce bâtiment est le bâtiment est celui d'un pauvre. Donc il n'y a pas de relation entre un signe extérieur de richesse et une construction en bois et torchis. Cela, je l'avais montré aussi sur les sondages que j'avais réalisés sur la villa de Saint-Pierre-du-Mont, où là, il y avait plusieurs états de construction. Et dans une de ces étapes de construction, il y avait un bâtiment qui était conçu en poteau porteur et en bois et torchis pour ensuite progressivement s'améliorer, s'agrandir, s'enrichir et devenir un bâtiment réalisé avec des matériaux durs, un très beau mortier et des murs de fondation assez épais.
Pour terminer cette première partie, vous allez nous proposer une chanson.
Donc une chanson qui parle du lundi et a été interprétée par les Bengals et ça s'appelle Manic Monday.
Just
Nous arrivons à la seconde partie de cette émission consacrée aux Landes à l'époque gallo-romaine. Dans l'émission, leur histoire est aussi notre histoire. Alors Didier Vigneault nous a expliqué dans une première partie ce qu'était l'époque gallo-romaine, pour le Marsan en tout cas, et il a également brossé un tableau de l'ensemble de l'habitat qu'ont pu découvrir les fouilles archéologiques depuis pas mal d'années. Alors maintenant, Didier, vous allez nous expliquer ce que l'archéologie nous apprend quant aux dispositions de ces bâtiments, au nombre de pièces, à leur architecture.
On connaît un petit peu l'architecture de ces bâtiments, au moins pour leurs murs. Pour la toiture, on sait qu'il y avait l'utilisation des fameuses tuiles romaines, les tuiles plates. Hein. Ce sont des tuiles plates à rebord. Ces tuiles servaient de couverture. Il y avait certainement des habitats qui étaient réalisés en toit de paille ou alors avec des tuiles faites en bois. Hein. On a des exemples, notamment en Angleterre, où il y a des bâtiments qui sont faits avec des tuiles en bois. Nous avons donc une idée de la construction de type de construction de ces bâtiments, mais par contre il y a très peu de plans, hein, puisque pour avoir un plan il faut fouiller intégralement ces sites, et malheureusement dans notre région il n'y a pas eu de fouilles extensives sur ce genre d'habitat. Les seules fouilles qui ont été réalisées de façon extensive l'ont été faites par l'archéologie préventive. Donc l'archéologie préventive intervient sur demande de l'État lors de grands travaux d'aménagement, et ça a été le cas à Mazerolles où l'archéologie préventive a découvert deux bâtiments de l'époque romaine, plus particulièrement du changement d'ère, et à cette occasion il a été possible de dessiner le plan de ces bâtiments. Alors c'est un plan assez classique avec des bâtiments en poteaux porteurs et une palissade et un fossé périphérique. Donc là il y a un schéma tout à fait classique que l'on connaît dans d'autres régions, ce qui fait que les Landes, hein, visiblement, si on se réfère à ces deux bâtiments, les Landes sont exactement comme toutes les autres régions. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a très peu d'accès aux pierres, donc il y a forcément des bâtiments qui sont construits en bois et torchis. Mais pour le reste, visiblement, au niveau de l'architecture et de la forme des bâtiments, ils sont conformes à ce que l'on retrouve ailleurs. Donc on ne peut pas dire que les Landes étaient archéologiquement quelque chose de particulier au cours de la période romaine.
Ces sites gallo-romains que vous évoquez en Marsan, ont-ils tous été uniquement des habitats ou bien ont-ils eu une autre fonction ?
Nous avons trouvé aussi sur ces six parts de sites qui sont plutôt attitrés à l'artisanat, puisque nous avons des ateliers de production métallurgique. Donc certains sont des petits ateliers qui sont visiblement liés à l'autarcie, mais il y a aussi un atelier notamment, ce qui est celui de Leloy, où là nous avons visiblement un gros atelier de production métallurgique où on exploitait le fer des marais pour produire du fer. Il y a d'autres ateliers, dont deux qui avaient été répertoriés anciennement et un qui a été découvert en 2003. Ce sont des tuileries, trois fabriques de tuiles de l'époque romaine, deux sur la commune de Saint-Jean, une sur la commune d'Arangos. Donc on a encore là une autre forme d'artisanat, hein, qui générait des sources de revenus. Il y a un autre type d'artisanat lié aux besoins de l'autosuffisance alimentaire ou de l'autarcie alimentaire, qui est celui de la production de moutures, donc la production de farine. Puisque nous avons découvert de nombreuses meules sur de nombreux sites, fragments de meules sur de nombreux sites. Un site sort du lot pour ce type de production, c'est un site qui est situé sur la commune de Benke et qui a livré à lui seul 12 meules tournantes de l'époque romaine. Et là, visiblement, nous avons un atelier industriel qui devait alimenter tout le secteur avec de la farine, mais qui, en contrepartie, bien sûr, recevait les productions céréalières du secteur, donc ce qui signifie qu'il y avait une agriculture autour de cet atelier et aussi des bâtiments pour pouvoir stocker les céréales dont il faut après obtenir la mouture. Ces différents ateliers sont marqueurs bien sûr d'une économie locale. Hein, malheureusement, vu le nombre d'ateliers, on ne peut pas comprendre réellement à 100% avec ces traces-là archéologiques, de quoi vivaient les gens à cette époque. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait dans le panel des sites qui ont été découverts, il y a des villas, il y a des habitats plus ruraux, il y a des ateliers. Mais on pouvait avoir ce que l'on appelle des habitats groupés, hein, c'est-à-dire des gens qui avaient le désir ou le souhait ou qui vivaient depuis des générations en communauté. Et il y avait plusieurs villages qui ont été repérés, un Serre, un Campette-la-Molaire, plusieurs ont été découverts du côté de Beilong, donc ce qui signifie que les gens vivaient en communauté.
Ces habitats groupés de l'époque gallo-romaine, dont on pourrait dire qu'ils ont constitué les ancêtres de nos villages, même s'ils ne sont pas tout à fait au même emplacement qu'évidemment au cours des siècles suivants. Est-ce qu'on peut dire donc de ces habitats groupés qu'ils ont été créés, qu'ils se sont formés à l'époque gallo-romaine, ou bien au contraire, ont-ils succédé à des habitats de l'âge du fer ?
Alors, ces cycles-là, on s'aperçoit que ce ne sont pas des créations ex nihilo de l'époque romaine, c'est-à-dire que à l'époque romaine, on n'a pas décidé de créer ces sites à cet endroit-là. Non, ces sites réoccupent des villages ou des habitats groupés plus anciens, mais on note quand même qu'il y a une expansion du nombre d'habitats qui composent ces sites pour la période romaine, c'est-à-dire qu'on a aux périodes anciennes, aux périodes proto-historiques, des sites assez petits, mais qui grandissent de plus en plus pendant la période romaine, jusqu'à venir occuper des surfaces qui peuvent être quelquefois d'une dizaine d'hectares, voire plus d'une trentaine d'hectares pour le site de Serre. Voilà, donc on vivait quand même en communauté à l'époque, hein. Il y avait donc plusieurs sites qui pouvaient occuper un espace assez réduit, mais il y a aussi des sites qui semblent isolés dans le paysage, et qui le sont d'ailleurs, hein. Puisque on a prospecté toutes les parcelles qu'il y avait autour de ces sites, et à part ces sites de la période romaine, il n'y a rien d'autre. Donc cela montre bien qu'il y avait des sites isolés dans le paysage, hein, au cours de cette période romaine, et ces sites, par nécessité, devaient vivre en autarcie, parce qu'ils étaient quand même assez éloignés de tous ces pôles d'habitat. Il y avait donc une nécessité de pouvoir vivre en autosuffisance, c'est-à-dire de pouvoir produire ses propres céréales.
Avez-vous une hypothèse pour expliquer cet isolement ?
Mais là aussi, on en parlera encore tout à l'heure. Voilà, donc tous ces sites-là que l'on a découverts constituent un paysage assez unique quand même pour la période romaine. Pourquoi est-il unique ? Parce que nous avons, nous, dans les Landes, eu un territoire qui a été recouvert de landes pendant très longtemps, hein, donc entre 600 et 1200 selon les secteurs, jusque à la fin du 19e. Et comme c'est un territoire très sablonneux, l'agriculture y a été très compliquée. Donc cette agriculture, qui nécessitait quelquefois des travaux du sous-sol sur de grandes profondeurs, n'ont pas égratigné tous ces petits sites que l'on a, et tous les sites que l'on a d'ailleurs, dans notre secteur. En plus, après, il y a eu cette forêt industrielle de pins qui a occupé tout le territoire, et l'ensemble, entre la lande et cette forêt de pins, a figé tous les sites qui étaient présents dans le sous-sol. Donc on peut dire que jusqu'à présent, les Landes étaient une véritable réserve archéologique. Voilà, donc c'est pour ça que, comme je dis, on a une particularité, c'est d'avoir encore des sites qui ne peuvent pas exister ailleurs, parce que les terrains qu'il y a ailleurs, notamment dans d'autres départements comme le Lot-et-Garonne, tous ces terrains ont été travaillés par l'agriculture intensive, et donc tous les sites qui sont en bois et torchis, en matériaux périssables, ont été forcément détruits. Donc cette chance-là, elle permet d'étudier ce qu'on appelle les dynamiques de peuplement, c'est-à-dire essayer de comprendre comment l'homme a occupé son territoire, de quoi il vivait, quels étaient les échanges commerciaux qu'il pouvait faire. Voilà, ces études ont commencé, sont toujours en cours, avec une thèse que j'ai commencé cette année avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, pour laquelle je suis rattaché au CNRS. Donc je pense que d'ici quelques temps, on en saura un peu plus encore sur les Landes.
Alors Didier, vous allez nous présenter une chanson.
Voilà, une superbe chanson qui est interprétée par le Hawaïen Israël Kamakawiwo Ole, dont le surnom est Is, et qui s'appelle Somewhere Over the Rainbow.
Ooh. sport of the rainbow. Way up high. And the dreams that you dream of once in a lullaby.
Yeah.